L'histoire va-t-elle basculer 30 ans après? Celui que l'on surnomme le boucher de la Sarthe pourrait-il être innocenté? Il y a quelques jours, la Cour de révision a accepté de reprendre le dossier d'Annie Leprince. Cet homme de 67 ans, aujourd'hui condamné pour le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs enfants. Meurtre barbare à la feuille de boucher. Mais Annie Leprince ne cesse de clamer son innocence. Dans ce dossier, de nouveaux éléments sèment le trouble. Face aux zones d'ombre nombreuses, cette affaire d'Annie Leprince va-t-elle bénéficier d'un nouveau procès? Tous les détails dans un instant, mais d'abord, retour en septembre 1994 à Thorigné-sur-Douai, dans la Sarthe, avec Elisa Trad.
Après plus de 17 ans derrière les barreaux, Annie Leprince n'a qu'une obsession, prouver que la justice a commis une erreur en le condamnant. Celui que la presse a surnommé le boucher de la Sarthe s'appuie sur différents éléments du dossier, dont le témoignage de sa fille, 15 ans à l'époque, qu'il juge incompatible avec la topographie de la scène de crime. Les faits sont survenus entre deux maisons voisines l'une de l'autre, celle de Dany Leprince et celle de son frère Christian. Nous sommes à Thorigné-sur-Douai. En septembre 1994, Christian, sa femme et deux de leurs filles sont retrouvés morts, tous tués à l'arme blanche, probablement avec cette feuille de boucher habituellement rangée dans un tiroir chez Dany et Martine Leprince. Quelques jours après les crimes, le procureur évoque un différend financier entre les frères.
Des raisons peut-être d'intérêt ou de jalousie, enfin les vieilles motivations qui font malheureusement parfois dans le mauvais sens marcher le monde.
En garde à vue, Dany Leprince a reconnu avoir tué Christian, mais n'a pas évoqué les trois autres cadavres. Interrogés de leur côté, sa femme et sa fille l'ont toutes deux désigné comme le meurtrier. Alors quand il est revenu sur ses aveux, c'était trop tard. La justice l'a condamné, en l'absence de preuves, selon son avocat de l'époque.
Aucune trace matérielle, il n'y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait pas de trace ADN, il n'y avait pas de trace de pas, il n'y avait pas de trace palmaire, il n'y avait rien.
Le rôle ce soir-là de Martine Leprince reste une énigme. Dans une dernière version, elle raconte être allée dans la maison des victimes pour récupérer Solène, 2 ans, seule rescapée de la tuerie. La cour de révision doit aujourd'hui réexaminer le dossier et notamment la crédibilité des différents témoignages.
Que de questions, que de mystères dans cette affaire. Il fallait au moins qu'Alain Bauer nous rejoigne. Bonjour, merci d'être avec nous, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, auteur notamment du dictionnaire amoureux illustré du crime chez Grunt Plomb. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Jean-Alphonse, je le disais, vous avez reçu dans l'heure du crime sur RTL il y a quelques jours Dany Leprince, juste après l'annonce de la cour de révision qui va se repencher dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un nouveau procès.
Non, mais...
D'abord, on se repenche sur le dossier. Il continue à dire « je n'y suis pour rien, tout cela est un complot ».
Oui, il dit effectivement, il est sur sa logique, hein, il n'a pas changé, on l'avait déjà reçu il y a quelques années lors de la sortie de son livre, et il continue à dire effectivement qu'il n'y est pour rien et que ses aveux ont été extorqués lors de la garde à vue avec les gendarmes, garde à vue qui a été très mouvementée, où il revient sur ses propos, etc. Lorsqu'on relit cette garde à vue, elle est très intéressante d'ailleurs, hein, on voit qu'il y a une évolution dans son discours. Il va d'ailleurs citer déjà à l'époque, hein, faut pas l'oublier, on a l'impression que c'est récent, mais pas oublier, il cite Martine, hein, il dit « j'espère que je me trompe ». Martine, elle est peut-être dedans, mais j'espère que je me trompe.
Si je me souviens bien, il avoue, il se passe une heure,
oui,
et justement, il revient et dit non, tout ça est faux,
et après,
il accuse un peu sa femme.
Il accuse sa femme, et après, il va dire, au final, il va dire, oui, c'est moi, Martine n'a rien à voir avec tout ça. Donc, effectivement, il dit que cette garde à vue a tout provoqué, a complètement dénaturé tout ce qu'il pouvait penser, il n'a jamais été sur place, il n'a pas tué son frère, il dit, j'aime mon frère, j'aimais cette famille, il le dit, etc. Et puis, il va quand même beaucoup plus loin aujourd'hui. Il dit, quand je lui demande est-ce que Martine est impliquée dans cette affaire, il dit certainement. Il dit certainement. Il dit elle était sans doute dans la maison et il dit elle est certainement impliquée. Donc voilà, il est dans cette logique encore aujourd'hui, d'ailleurs avec beaucoup de ténacité et beaucoup de force.
À l'époque, on se pose quand même la question de savoir ce qu'a fait Martine cette fameuse nuit. Elle est pas loin, elle est là, elle dort, elle peut pas ignorer ce qui s'est passé. Et on pense à l'époque, pour tous les journalistes qui étaient sur place, que au moment où il passe aux aveux, il couvre sa femme, parce que si lui va en prison, plus sa femme, leurs trois filles vont aller à la DAS. Et ça va devenir compliqué. Alors, on pense tous au début qu'il couvre sa femme. En tout cas, elle sait des choses, c'est sûr, qu'elle n'a pas dites.
Alors, c'est effectivement, c'est une hypothèse hein, de travail. Il couvre sa femme parce qu'effectivement, il pourrait être un complice. On pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui sont rentrées dans cette maison. Il faut tirer les corps, on se souvient. Hein, il faut tuer, mais aussi, il faut tuer les...
Et le beau-frère est tué à l'extérieur et tiré à l'intérieur de la maison.
Donc, effectivement... ça peut convenir, voilà. Donc ça peut être une explication, mais là il va quand même aujourd'hui beaucoup plus loin hein, concernant sa femme. Il l'implique totalement. Donc on n'est plus tout à fait dans cette même logique. Mais on sent que dès le soir des crimes, ça va pas dans ce couple. Il va nous raconter, par exemple, quand on l'a interrogé, que quand il arrive dans la maison, il rentre. C'est un dimanche soir, donc il a pas travaillé. Il rentre chez lui. Il va trouver sa femme qui est bien habillée, dit-il, comme si elle allait sortir, un habit de ville, donc elle s'est changée. Il va la retrouver derrière la télé, elle ne va pas le regarder, devant la télé, par contre, elle ne va pas le regarder, la télé est mise, le son est mis à minima, il comprend pas très bien, elle ne va pas lui parler, et lui, il dit, on s'est pas parlé, moi, je suis allé prendre ma douche, et ensuite, j'ai dîné, j'ai un petit peu regardé la télé, je me suis couché, puis je me suis levé très tôt pour aller travailler. Il y a cette scène qui est très étrange, qu'il décrit aujourd'hui. Hein.
Il aussi, dit ça peut sembler un détail, Alain, mais la scène de crime, c'est-à-dire qu'on a des meurtres commis à la feuille de boucher, alors lui travaille dans une usine de steak haché, elle aussi dans cet univers et débite des animaux, et en fait, ça donne quand même un élément de point de départ dans cette affaire.
Alors, je crois que surtout l'élément de point de départ, c'est qu'il n'y en a pas. Ni sang, oui. Ni ADN, aucun élément constitutif de quoi que ce soit sur rien qui appartienne à Dany Le Prince, oui. À part ses aveux à géométrie variable, extrêmement complexes. On a oublié de rappeler quand même que sa femme et une de ses filles l'accusent. C'est pas, je veux dire, les
extrêmement
gendarmes
importante.
Sont pas partis comme ça. Et que ça a constitué probablement un fil conducteur pour les gendarmes, les incitant à se focaliser sur lui et pas vraiment sur elle, oui. Plus ce qu'a très bien ajouter Dominique sur peut-être qu'il la couvre, peut-être qu'il la couvre. Enfin, il va lui falloir très longtemps pour admettre qu'elle est peut-être éventuellement plus qu'une simple complice lointaine ou étant intervenue plus tard. Parce que je rappelle qu'il y a une survivante, qui est la petite fille de 2 ans.
Solène,
qui bien plus tard dira moi-même, je suis pas très convaincu.
Alors qu'un pédopsychiatre qu'il avait entendu avait dit, elle a dit tonton méchant et ça a aussi accrédité l'hypothèse que ce soit Daniel Prince.
Il y a plein d'éléments dans cette affaire qui sont extrêmement perturbants, qui peuvent parfaitement expliquer l'orientation prise par l'enquête, mais l'élément majeur, c'est qu'il y a rien. Et le couteau numéro. Le couteau.
Jaune.
Le couteau jaune. Avec marqué le nom Le Prince, mais pas le prénom, qui semblerait ne pas appartenir à Dany Le Prince, mais qui pourrait appartenir à sa femme, après des épisodes de perte de scellés retrouvés, de dossiers perdus dans la pampa. Je veux dire, cette affaire est un exemple parfait de tout ce qu'il faut pas faire dans une enquête. Et qui se traduit malgré tout par une condamnation, des refus de révision, une libération, une réincarcération. Enfin, je veux dire, c'est une histoire sans fin, à rallonge. Jean-Alphonse aurait pu faire une demi-douzaine d'émissions de manière assez régulière fur et à mesure des événements. Et enfin, parce que la Cour de révision dit, bon, il y a des éléments soit nouveaux, soit inconnus, ce sont les deux seuls éléments qui permettent de rouvrir quelque chose. Parce que pour l'instant, elle a juste transmis à la Cour de révision, la commission a transmis à la Cour, et là on va voir si la Cour décide un supplément d'enquête ou une entrée effectivement dans le processus de révision qui pourrait se traduire soit par un nouveau procès s'il y avait encore suffisamment de personnes. Or, pour l'instant, il y a suffisamment de personnes vivantes pour refaire un procès, soit décider que, tout bien considéré, le moment est venu de reprendre ce dispositif et de prendre une autre décision. Vous voyez, c'est une histoire qui n'est pas finie. Il y a encore de la place pour Jean-Alphonse.
J'aimerais qu'on parle donc 2 secondes de Solène. Donc, Christian, sa femme Brigitte, les deux filles sont tuées, et la petite Solène, elle est au bout de la maison, dans sa chambre, elle est propre.
Elle est dans
lui a changé sa couche dans la nuit, quelqu'un est venu. A marché dans le sang des 4 victimes, a pris Solène, l'a emmenée, lui a changé sa couche. On la retrouve le matin, elle a 2 ans, derrière la porte. Solène dira, via sa babysitter, 1 an plus tard, elle a 3 ans, tonton méchant. Donc ça va faire partie aussi des éléments qui vont emmener Dany Le Prince en prison. Mais aujourd'hui, Solène a 30 ans, elle veut aussi savoir la vérité sur ce qui s'est passé.
Elle dit « j'ai jamais dit ça ».
Elle dit « je n'ai jamais dit ça ». Mais alors, ce qui est un peu, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dit, Jean-Alphonse à l'époque, comment est-ce qu'on peut croire une gamine de 2 ans qui dit « tonton méchant », mais aujourd'hui, on la croit quand elle dit « j'ai jamais dit ça ».
Oui, alors.
Alors expliquez-moi comment, elle a 2 ans, il ne faut pas la croire,
parce que
mais maintenant, elle avait toujours 2 ans à l'époque, il faudrait la croire.
Parce que c'est un peu bancal, ça. Ce que dénonce notamment Maître Maurice, qui est l'avocat de Dany Le Prince, c'est que ses propos, ils auraient été totalement interprétés.
C'est possible.
Non, mais attends, voilà, moi, c'est le dossier qui dit ça. Hein. Ouais. Ils auraient été interprétés, ils auraient été en quelque sorte fabriqués ou refabriqués. On aurait fait parler une gamine. Elle dit, moi, je ne me souviens absolument de rien.
Normal, elle a 2 ans.
Oui, elle l'a dit par la suite. Elle l'a dit après en grandissant.
On n'aurait pas dû la croire dès le début.
L'adolescence.
On n'aurait pas dû la croire dès le début, mais il ne faut pas la croire maintenant non plus.
Mais elle ne le dit jamais. Hein. Elle ne le dira jamais. D'accord. C'est la babysitter qui dit qu'elle l'a dit.
Qui lui fait dire, en tout cas, qui interprète ses propos. Mais pour revenir, effectivement, c'est très intéressant, hein, l'histoire de Solène. Il faut quand même aussi revenir avec cette histoire de Solène autour de Martine. Parce que Martine a fait des allées et venues avec cette histoire dans la maison. Première version, je ne suis pas rentré dans la maison. Deuxième version, oui, je suis rentré, j'ai pris le bébé parce que je voulais l'enlever de ce carnage, etc. Je l'ai pris avec moi, je l'ai changé, je l'ai emmené chez mes beaux-parents, c'est-à-dire les parents de Dany, pour qu'ils la gardent, pour qu'ils la prennent. Les beaux-parents, la belle-mère a dit, non, pas question que je prenne cet enfant. Je suis reparti dans la maison. J'ai enjambé les cadavres. J'ai marché donc dans la maison et je suis allé déposer la petite dans le lit. Il faut avouer que c'est quand même assez troublant.
Ça, honnêtement,
Alain Bauer me disait tout à l'heure qu'il y avait des choses extraordinaires dans ce dossier, et effectivement, le dossier est extraordinaire.
Ça, c'est extraordinaire. Célia, puisque vous l'évoquiez à l'instant, l'autre fille de Dany Le Prince, dit avoir vu au début, alors qu'après, quand on se rend compte qu'elle est derrière une huette tuya, et qu'elle ne peut rien voir. Ouais.
Non, mais on sent bien qu'on est parti probablement et d'une dénonciation et d'une intuition, et que ça a fait ce qui arrive malheureusement, ce qui arrivait plus hier qu'aujourd'hui, quoique dans une espèce de ligne de nage où l'intime conviction des enquêteurs a éliminé, ça s'appelle un biais cognitif, hein, j'enseigne ça à l'école de guerre, donc je vois maintenant à quel point ça peut influer aussi une enquête criminelle, un biais cognitif qui est un biais de persuasion. Tout ce qui va dans mon sens, je le mets dans le dossier, tout ce qui ne va pas dans mon sens, je l'écarte parce que je suis persuadé que, et je vais obtenir, ce qui n'est pas le principe de l'enquête, mais le principe de l'aveu. Il y a 30 ans, le principe de l'aveu était extrêmement prédominant. Aujourd'hui, on arrive peu à peu à une logique d'enquête où à la fin, l'aveu, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais ça n'est pas le gâteau. À l'époque, c'est plutôt l'inverse.
Mais on est dans une affaire où tout le monde se court.
Tout le monde ment.
On a l'impression de penser à l'affaire Grégory.
Tout le monde change d'avis. Tout le monde change d'explication.
C'est une affaire familiale.
C'est une affaire familiale.
Exactement. C'est tension.
Parce que ce meurtre, à vous le criminologue, il peut être commis par une seule personne.
Le meurtre, oui. Le mouvement des cadavres, non. Ah oui, 4 meurtres, même 8. Ouais. Ils auraient même pu.
Mais le mouvement des cadavres, non.
Non, les meurtres familiaux, on a en général un seul auteur. Par contre, la mise en scène de l'après nécessite quelques modifications et donc d'être plutôt 2 dans cette affaire. On le voit d'ailleurs dans plein d'affaires qui ressemblent à celle-là. Eu égard notamment à le faible laps de temps entre le moment de la découverte. C'est pas 8 jours plus tard caché sous la maison avec de la chaux.
Il faut aller vite.
On est une autre histoire. Mais là, on est là-dedans. Mais ce qui est invraisemblable depuis le début, c'est les changements de version de tous les protagonistes.
Bien sûr.
Tous.
Le seul corps qui est déplacé, c'est celui de Christian Le Prince, qui est tué près de la boîte aux lettres, à l'extérieur,
et ramené
qui
à la
est traîné.
Devant la maison.
On sait exactement comment il a été traîné. On l'a pris sous les bras, on l'a traîné, et son pantalon, sa ceinture a heurté une petite bordure, ça lui a baissé son pantalon, on l'a déposé dans la maison. Il suffit de demander à Martine si elle est capable aujourd'hui, elle est témoin assistée dans ce dossier, peut-être la mettre en examen, lui demander si elle est capable, en faisant une reconstitution, de traîner le corps, un corps qui pesait le poids de son beau-frère, ou si il faut être plusieurs, ou si Dany Le Prince peut le faire. Enfin, ça fait aussi partie des choses qu'on aurait dû leur demander, non?
Et qui seront peut-être demandées, parce que vous le dites, si Martine est mise en examen, je suppose qu'il y aura à nouveau des vérifications qui iront dans ce sens-là.
En tout cas, c'est des choses qu'elle ne dit pas.
Réponse en 2 mots, combien de temps pour qu'on ait une idée de ce que décide la Cour de révision?
Si elle demande un supplément d'instruction, le temps de faire un supplément. je sais pas, disons, 12 à 18 mois.
12 à 18
si
mois.
Si ça va vite.
Merci beaucoup à vous deux sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois.